Info sur VOA Afrique.
Micro dédié pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord, Dakar a accueilli le Forum foncier mondial.
En fait, la conférence de Dakar montre bien une tension qui demeure aujourd'hui, même si on a beaucoup parlé des problèmes d'accaparement des terres.
Frédéric Mousseau de l'Institut Oakland en Californie, spécialisé notamment dans les questions d'accaparement des terres, commentera la rencontre. Plus de 1200 acteurs de l'industrie mondiale des phosphates sont attendus à la troisième édition du SINFO, ce qui réunit des professionnels des phosphates au Maroc, cette semaine. Et un homme d'affaires camerounais veut que les jeunes sachent qu'on peut partir de rien et devenir industriel.
Quand vous commencez une affaire, ne dites pas que vous n'avez pas assez d'argent. J'ai commencé à ramasser les bouteilles, j'ai commencé à vendre des huiles de palme. Après, j'ai commencé à faire manœuvre au Caire. Mais j'avais un seul objectif, réunir mon argent pour ouvrir un atelier de couture industrielle.
On entendra Dieudonné Bougne du groupe Bocom au Cameroun. Dakar vient d'abriter un forum foncier mondial dont la première journée était dédiée à l'Afrique. L'occasion pour le vice-président du Fonds international pour le développement agricole, Michel Mordassini, de rappeler que les détenteurs d'exploitations agricoles en Afrique perdent souvent leurs terres au profit des grandes entreprises, alors que la sécurisation foncière est un premier pas vers la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. La terre est un enjeu planétaire et de la bonne gouvernance foncière dépend le développement agricole mondial, ainsi que la réalisation de la sécurité alimentaire, a soutenu le ministre sénégalais de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck. La qualité des sols se détériore, a-t-il poursuivi. Autre problème soulevé par les participants, les difficultés qu'ont les Africaines pour accéder à la terre, alors qu'en Afrique, elles la font le plus souvent fructifier. Pour une réaction à la conférence, on écoute Frédéric Mousseau de l'Institut Oakland en Californie, spécialisé notamment dans les questions d'accaparement des terres.
En fait, la conférence de Dakar montre bien une tension qui demeure aujourd'hui, même si on a beaucoup parlé des problèmes d'accaparement des terres. Il y a une tension forte aujourd'hui, avec d'un côté des réformes foncières qui sont encouragées par la Banque mondiale, par les pays riches tels que les États-Unis et les entreprises internationales pour accéder aux terres, pour privatiser les terres et de donc accroître les investissements fonciers et finalement l'accaparement des ressources. Et puis de l'autre côté, les paysans, les citoyens qui non seulement luttent contre cet accaparement, mais aussi demandent bien davantage, demandent l'accès aux terres, demandent une redistribution des terres dans un certain nombre de pays où la répartition est encore celle héritée des temps coloniaux. Donc en fait, cette conférence, elle nous montre aujourd'hui cette tension et malheureusement, oui, il y a prise de conscience de l'accaparement des terres, mais en même temps, un discours dominant très très fort qui est que le continent africain doit se développer en faisant venir tous ses investisseurs et en leur offrant les ressources disponibles, en particulier l'eau et la terre. Donc, prise de conscience, oui, mais une pression qui demeure très forte et cette conférence nous montre encore que la pression demeure.
Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été réalisés du côté des infrastructures cadastrales, des titres de propriété? Parce que l'un des gros problèmes en Afrique, c'est l'absence des titres de propriété.
Oui, effectivement, il y a un certain nombre de pays où il y a pu avoir des avancées là-dessus. Malheureusement, c'est un sujet très controversé parce que offrir des titres de propriété sur le système occidental revient à une privatisation des terres. Et pour beaucoup de mouvements paysans, la privatisation des terres, c'est aussi un risque demain d'avoir des paysans endettés qui doivent céder leur terres et leurs titres. Et cette idée de titrisation, de privatisation avec des titres pour les paysans, est une idée très poussée par les mêmes banques mondiales et USAID, qui disent que c'est une demande pour le développement, mais on voit qu'il y a des risques importants liés à prendre cette voie qui sont souvent ignorés. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui en Afrique disent ne pas vouloir cette forme de privatisation des terres, mais au contraire, des systèmes qui prendront en compte la propriété collective, l'usage collectif des terres, tel qu'on le voit encore dans beaucoup de communautés africaines, que ce soit pour les paysans ou pour les éleveurs, où la gestion collective des ressources est encore plus importante, évidemment. Et ce sont des visions qui sont malheureusement souvent pas prises en compte par les décideurs, qui se basent sur la vision occidentale et sur la science occidentale du cadastre et des terres, alors que, de notre point de vue, ce n'est pas nécessairement la solution au problème foncier aujourd'hui.
Mais alors, de votre point de vue, quelle serait la solution ?
La solution, c'est de reconnaître les systèmes existants et de travailler sur les systèmes existants, notamment ceux qui assurent cette gestion communautaire et collective. Mais au-delà, le problème, c'est que on a beaucoup de lois et beaucoup de lois différentes dans de nombreux pays. Et ce que disaient d'ailleurs plusieurs intervenants de mouvements paysans à cette conférence, c'était que même avec ces lois-là, le problème principal est aujourd'hui la volonté politique des gouvernements d'appliquer ces lois. Et aujourd'hui, on reste avec comme problème principal et comme cause principale de l'accaparement des terres que pour de nombreux gouvernements, la voie du développement, c'est de privatiser, c'est d'attirer ces investisseurs étrangers et de leur offrir des terres avec des systèmes qui varient en fonction justement des lois du pays, avec des systèmes qui vont permettre de faire des contrats avec les paysans ou de simplement de saisir les terres et de déplacer les gens en fonction des systèmes législatifs en place. Mais ce qu'on voit, c'est que malheureusement, dans de nombreux pays, quelles que soient les lois, si la volonté politique est de toute façon de pousser pour ces investissements, entre guillemets, les gouvernements et les entreprises en question vont trouver les moyens. Et je crois que vu les tensions dont on faisait état tout à l'heure sur la terre et la question foncière, le principal aujourd'hui, c'est de travailler sur une autre vision du développement, une autre vision des investissements qui soit plus favorable aux citoyens et aux paysans et aux éleveurs plutôt qu'à ces entreprises étrangères qui prennent des ressources et exportent des denrées qui ne serviront pas au continent.
Frédéric Mousseau de l'Institut Oakland qui était joint en Californie. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Quelques autres nouvelles de l'actualité économique en Afrique avec Michel Joseph.
Plus de 1200 acteurs de l'industrie mondiale des phosphates sont attendus à la troisième édition du SINFO, qui réunit des professionnels des phosphates au Maroc cette semaine. Les participants tenteront d'examiner les nouvelles techniques et technologies pouvant améliorer les systèmes de production dans l'industrie phosphatière et la préservation des ressources. En République centrafricaine, une partie de la population du 6e arrondissement de Bangui, la capitale, a été sensibilisée ce week-end sur le droit au travail. Une activité organisée par le réseau des journalistes pour les droits de l'homme en partenariat avec la mission intégrée des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA. Sous la bannière de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, Djibouti est devenue la première nation de l'Afrique de l'Est à procéder à l'évaluation de l'état de ses énergies renouvelables. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par le ministère djiboutien de l'énergie chargé des ressources naturelles. La capitale sénégalaise Dakar ambitionne de devenir un hub sur l'Afrique et notamment sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ses 300 millions d'individus. Un immense chantier à 30 km au sud de Dakar abrite le futur pôle urbain de Diam Niadio. L'espoir est que ce pôle pourra générer 30 à 40 000 emplois directs, l'idée étant d'y installer sur plus de 3 000 hectares une vaste plateforme industrielle, des services, des universités, des hôpitaux, des administrations, mais aussi une ville nouvelle.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie de VOA Afrique sur les ondes de la Voix de l'Amérique. En visite aux États-Unis pour discuter investissement, l'homme d'affaires camerounais Dieudonné Bougne a accordé un entretien à la Voix de l'Amérique. L'occasion pour lui de rappeler que l'on peut partir de rien et un jour se retrouver à la tête d'un conglomérat dans son pays. Car le groupe Bocom est en pleine expansion au Cameroun. Il s'implique aujourd'hui entre autres dans la transformation sur place des matières premières, les écosystèmes industriels, la préservation de l'environnement, le soutien aux communautés locales et le développement de l'Afrique en général. Je vous propose d'écouter M. Dieudonné Bougne, manœuvre à ses débuts et aujourd'hui patron de multiples sociétés.
Nous sommes très avancés dans le mine où au Cameroun nous avons 14 permis de recherche minière de 1000 km² chacun. Donc on a déjà fait beaucoup de travaux, c'est-à-dire la géophysique aérienne, on a fait des analyses, on a fait les interprétations. Aujourd'hui, on est en train de faire le forage pour vraiment quantifier les gisements. Donc aujourd'hui, on cherche les investisseurs qui sont intéressés dans le mine à venir nous accompagner dans ce grand projet.
Est-ce que vous recherchez des fonds auprès d'investisseurs africains installés aux États-Unis ou purement américains?
Le fonds d'investissement, c'est le fonds. On ne veut pas que ce soit un fonds africain ou américain. Tout ça, c'est le fonds. Nous voulons un fonds pour investir. Et en ce qui concerne le fonds, on est en train de... Dans tous ces permis, on a mis en évidence un gisement de fer non loin du port à nos profondes crédits. Où nous sommes en train de vouloir transformer une partie sur place, de mettre une fonderie sur place pour transformer une partie pour la consommation locale qui s'élève à plus de 250 millions de tonnes par an.
Nombre d'investisseurs américains, en fait, évitent le continent africain. Quel est votre message à ces investisseurs? N'y a-t-il pas de belles opportunités à travers tout le continent?
Les gens passent tout le temps, quand il y a moins de problèmes, on passe tout le temps à amplifier pour déstabiliser l'Afrique. Et les problèmes, il y en a dans tous les pays. Les problèmes que nous avons en Afrique, ça se passe dans tous les pays. Et je ne vois pas pourquoi les investisseurs doivent avoir peur. Je vous prends un exemple. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui meurt dans mon pays, au Cameroun, quand nous suivons les radios internationales, on ne comprend pas. On se demande si c'est dans le même pays, le Cameroun, là, que cette histoire s'est passée. Donc les gens amplifient. Nous, on ne comprend rien. C'est pour empêcher les investisseurs de venir chez nous. Or, moi, je profite de l'occasion pour dire que le Cameroun, je parle de mon pays puisque je le connais très bien. Dans mon pays, il y a la paix depuis des années et des années. L'histoire qu'on parle aujourd'hui de Boko Haram, c'est à l'extrême nord, une petite partie du pays. On ne peut même pas appeler ça la rébellion. C'est des bandits qui viennent parce que la frontière à ces endroits entre le Nigeria et le Cameroun se moins de 200 km. Ils viennent dès qu'ils attaquent au Cameroun et puis entrent au Nigeria. On appelle ça la rébellion. Ça, c'est des bandits, des coupeurs de route qui viennent semer le désordre là-bas. Mais les gens amplifient comme s'il y avait la guerre au Cameroun pour empêcher les investisseurs de venir. Moi, je suis au Cameroun, j'ai mes stations service dans toutes les régions, les 10 régions du pays. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai enregistré aucun problème dans toutes ces stations. Actuellement, que je suis aux États-Unis. S'il y a un problème au Nord-Ouest, ça veut dire que mes gérants des stations de Nord-Ouest vont m'appeler 5 minutes après pour me dire la gravité du problème. Donc, je suis vraiment écœuré quand on veut tout noircir l'image des Africains. Je ne suis pas d'accord. L'Afrique est vraiment debout. Ça, je vous le rassure en tant qu'un homme d'affaires.
Alors, vous évoquiez il y a un moment le fait de transformer une partie du minerai sur place, que ce soit les institutions de Bretton Woods ou d'autres institutions internationales. Tout le monde préconise à l'Afrique de transformer davantage sur place ces produits plutôt que de les exporter purement. Est-ce que c'est faisable et dans quelles conditions?
Oui, c'est bien faisable parce qu'actuellement, le gouvernement m'encourage dans le sud. C'est pour ça que le ministère de l'Industrie vient de créer une commission interministérielle pour suivre ce projet. Parce que le chef d'État lui-même a instruit au ministre de l'Industrie de suivre mon projet et de m'encadrer. Le ministre a créé une commission interministérielle pour suivre ce projet. Donc, c'est faisable. Même si les gens ne croyaient pas à ça, je suis en train de les encourager à croire à ça quand ils vont voir que mon projet est réalisé.
L'un des gros problèmes auxquels sont confrontées les économies africaines est celui du chômage des jeunes. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet ?
Effectivement, le chômage des jeunes, c'est pour ça qu'on veut éradiquer ça complètement en créant des emplois. Aujourd'hui, avec tout ce que je fais, j'emploie plus de 3 500 jeunes. Si on pouvait encourager les Africains de créer des sociétés industrielles, de faire des transformations sur place, ça pourrait diminuer largement le chômage. Mais c'est le contraire. Les multinationales viennent encore éteindre les sociétés nationales. Quand un national veut faire quelque chose, la multinationale vient plutôt l'éteindre. Comment on va évoluer? Et quand la multinationale s'installe, c'est pour chercher ses frères expatriés pour venir prendre la part de Lyon avec le salaire de plus de 30 000 dollars le mois. Pendant ce temps, l'Africain ne veut qu'au moins de quoi survivre, c'est-à-dire moins de 200 dollars. On ne lui donne pas ça, on ne veut pas chercher les gens ailleurs. Les petits travaux, comme le transport dans mon pays, vous allez aller dans le transport, vous allez voir que c'est les expatriés. Oh, les banques locales ont déjà favorisé ce qu'on appelle le crédit bail pour donner aux nationaux de prendre les camions et de transporter les marchandises. Donc vous allez voir dans ce transport les expatriés qui viennent faire le transport, le travail que les Africains pouvaient le faire. Ça, je trouve ça normal.
Quelles sont les suggestions que vous pouvez offrir aux jeunes d'aujourd'hui qui voudraient se lancer dans les affaires? Vous avez réussi vous-même à force de travail, à force d'ingéniosité. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune homme ou à une jeune femme qui veut se lancer dans les affaires?
Déjà, le premier conseil, je peux lui dire de croire en ce qu'ils font. Il faut déjà croire en ce qu'on fait. Et de prendre l'exemple de M. Boone. Parce que je suis parti de rien et me voici industriel aujourd'hui. Je croyais en mes capacités, je crois en ce que je faisais. Et c'est même le slogan de Bocom aujourd'hui. Donc, quand vous commencez une affaire, ne dites pas que vous n'avez pas assez d'argent. J'ai commencé à ramasser les bouteilles, j'ai commencé à vendre de l'huile de palme. Après, j'ai commencé à être manœuvre. Okay. Mais j'avais un seul objectif, réunir mon argent pour ouvrir un atelier de couture industrielle. Ce que j'ai finalement fait, et à partir de la couture industrielle, j'ai développé d'autres industries, ainsi de suite, et me voici aujourd'hui. Donc je demande à tous mes jeunes de suivre mon exemple et de croire en ce qu'ils font, et ils vont réussir.
Et à votre avis, que pourrait faire le gouvernement camerounais ou n'importe quel gouvernement africain pour justement aider ces jeunes à se débrouiller, à se lancer dans les affaires?
Mais que les gouvernements africains apprennent à faire confiance à leurs compatriotes qui veulent se lancer dans les affaires et qu'on les encourage. Vous allez voir dans d'autres pays, quand un jeune a envie de faire des affaires, dès qu'il a commencé, on le tue avec les impôts. C'est-à-dire qu'il ne peut pas évoluer. Le fisc qui vient devant ce monsieur ne sait pas qu'il est naïf et on va chercher à lui faire des taxations qu'il sera incapable de payer et il va fermer les portes. Donc si tous les gouvernements africains pouvaient encourager les gens à faire les affaires et aller donner les exonérations des impôts, par exemple, pour quelques années, le temps qu'ils se mettent debout avant de commencer à faire des taxations, je crois que ce serait salutaire. Et il faut que les radios, les télévisions africaines passent le temps aussi à faire des reportages sur des gens qui ont réussi dans d'autres pays, et que leur compatriote essaie de voir et toucher le modèle. Voilà tout ce que je peux apporter comme contribution.
Est-ce que la réglementation pourrait être davantage simplifiée aussi?
Oui, bien sûr, ça dépend de tout gouvernement. Moi, par exemple, au Cameroun, je réveille mon gouvernement tous les jours. Quand ça ne va pas, je suis au milieu du bas peuple. Dès que ça ne va pas, j'écris à la présidente. J'écris au SGP, la présidente, j'insiste. Et il me reçoit, je l'explique que le bien fondé de ce que les gens revendiquent. Et quelques jours après, le problème est décelé. Donc, je crois que n'importe qui pouvait faire la même chose. Si j'écris, on me reçoit, ça veut dire que chacun peut écrire aussi à son gouvernement. Et on le reçoit. Et il pose son problème clairement. Le gouvernement n'est pas le bon Dieu. Le gouvernement a besoin des informations pour agir. Les informations fiables surtout pour agir.
L'homme d'affaires camerounais, Dieudonné Boone, qui était de passage ici à Washington. Voilà, ainsi. Ainsi s'achève cette édition du magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.